Kaylam, 100% métisse.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Kaylam a grandi en France et a partagé son assiette entre les raviolis vapeur et le camembert. Son calendrier entre Noël et la fête de la lune, sa santé entre le baume du tigre et l'eau bénite. Et puis, elle a tout mélangé pour se concocter sa cuisine culturelle à elle, jaune à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Banana Girl, son premier roman graphique, le raconte bien. Depuis, cette diplômée de l'École des ingénieurs de Paris bâtit sa maison à coups de romans graphiques, puisque vient de paraître Les saveurs du béton, deuxième roman graphique où elle consigne tous les préjugés français sur la culture chinoise et les déboires d'une vie en rose, plutôt grisâtre, dans une cité du 9-3, le pinceau dans les yeux de la banlieue.
She got G like MC, you liked it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
le girl power sur le dance floor dans sol majeur, c'est vrai que ça danse un peu hein, dans le studio. Bonjour Kaylam.
Bonjour.
Est-ce que aimer les Spice Girls, c'est forcément être pour le girl power, le féminisme positif?
Alors, je n'ai pas pensé à ça quand j'étais ado, je vous avouerai. J'ai plutôt dansé là-dessus, chanté et fait tout ça avec mes copines, quoi.
Et aujourd'hui?
Sur les Spice Girls?
Sur le girl power?
Sur le girl power, bah oui, complètement. Là, je lis énormément de bouquins sur le féminisme, je m'interroge, j'essaie de déconstruire ce que m'ont appris mes parents et c'est pas évident.
Alors, première précision, grâce à votre Banana Girl qui est paru en 2017 chez Steinkiss, pour dire bonjour dans une phonétique chinoise bien étudiée, je crois qu'il faut dire stupide cochon.
Panchou, ça c'est comme ça que mes parents apprenaient grâce à des insultes en chinois pour apprendre le français. Parce que c'est vrai que c'est difficile pour un chinois d'apprendre le français. C'est une langue qui n'a rien à voir avec le mandarin. Et donc, il faut s'appuyer comme ça sur la phonétique. Et panchou, ça veut dire stupide cochon. Et il se trouve que panchou ressemble beaucoup à bonjour.
Et pour dire alors salut, merci, de rien.
Alors merci, c'est mais c'est aucune chance. Et de rien, c'est tahayyan. Tahayyan qui veut dire avoir un mouton noir.
C'est de la poésie en fait.
C'est de la poésie ? Ah, je dirais pas ça moi.
Nakilang ou jouen alphabet Paula.
Dans quelle langue dites-vous votre alphabet?
Ma langue maternelle maintenant, c'est le français. Il y a plusieurs langues qu'on parle à la maison. Mon père parle le Fujian, ma mère le Shanghai, moi je parle le cantonais. La langue officielle de la Chine, c'est le mandarin. Donc tout ça se mélange dans ma tête, mais la langue avec laquelle je parle le mieux et dans laquelle je me sens complètement libre, bien évidemment, c'est le français.
Mmh. Alors vous êtes enfant unique, donc de deux parents chinois qui tentent dans les 10 mètres carrés de leur chambre parisienne il y a quelques années maintenant de vous transmettre tout ce qu'ils peuvent de leur culture, mais évidemment sans l'environnement qui va avec. Comment ça s'est passé alors pour cette transmission, ne serait-ce qu'au niveau de la langue ?
Mon père tenait énormément à ce que j'apprenne le chinois. Et ma mère, qui était enseignante de mandarin, essayait de m'apprendre elle-même, et ça marchait, mais pas du tout. Je détestais ça parce qu'elle s'énervait, moi j'étais pas patiente, elle ne l'était pas elle non plus. Donc ça donnait lieu à des situations, où moi j'ai détesté quoi. Donc elle a essayé de me mettre à l'école, dans une école où je pouvais apprendre le chinois avec d'autres enfants chinois. Et c'était très drôle parce que finalement, c'était pas une école et je me suis retrouvée dans une sorte d'école de catéchisme. Enfin, c'était très amusant. Je sais pas comment je me suis retrouvée là-dedans, surtout que mes parents n'étaient pas croyants du tout. Mm-hmm. Donc, ça faisait des situations assez comiques, quoi.
Et au niveau de l'acquisition de la langue ?
Eh ben, je dirais que je parle comme une enfant de 6 ans. Mon père le regrette parce qu'aujourd'hui, quand on communique ensemble, ma mère me disait par exemple « Ah, bah ton dernier livre, je ne sais pas le lire, tu te rends compte ?» Quand mon père m'envoie des messages mm-hmm. en chinois, ouais. J'utilise Google Traduction, je mets mon petit doigt, je surligne et hop, ça me traduit en phonétique. Je me le prononce et ensuite, je comprends ce qu'il a voulu me dire.
Waouh !
Ouais.
C'est impressionnant, ça, comme expérience linguistique avec ses parents.
Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile, déjà qu'avec nos parents, on le sait tous, il y a déjà un écart générationnel, donc on a du mal à se comprendre parfois. Et là, il y a l'écart culturel qui est vraiment à la maison, c'était très chinois, et quand j'allais à l'école, je devais oublier tout ça. Et en plus de ça, se rajoute une incompréhension de la langue.
Mmh. Est-ce que c'est vrai que votre père a réussi à vous faire venir en France, vous et votre mère, en vendant 3 tableaux ?
Oui. Oui, c'est vrai, parce qu'à l'époque, on n'avait rien. Mes parents, ils ont vécu la révolution culturelle. Ils sont arrivés... Enfin, mon père n'avait rien. Il était dans une chambre de bonne. Et c'est vraiment un hasard, le fait qu'il peigne et qu'il rencontre quelqu'un qui a bien voulu lui acheter 3 tableaux. Grâce à cet argent-là, il nous a payé les billets d'avion et c'est comme ça qu'on est venu.
Mais venu en France par amour de Cézanne, Renoir et Monet.
Exactement, les impressionnistes. Et je pense qu'il se prend pour eux, quoi. Il a acheté un béret, il avait un pull, et puis il l'écoutait comme ça à la maison, Mozart, Chopin, il se croyait...
Oui, c'est ça.
Il fantasmait la vie d'artiste.
Alors la vie d'artiste, la vie de bohème, ça a l'air très romantique quand c'est raconté comme ça, mais en fait c'était très très dur au quotidien pour vous, cette vie dans 10 mètres carrés, sans pratiquement aucune ressource.
Alors, je dirais que c'était joyeux quand moi j'étais petite. Mm-hmm. C'est a posteriori, une fois adulte, où je me suis dit, mais finalement, mes copains n'ont pas vécu ça. Et ce n'était pas une situation facile. C'est vrai que maintenant, quand je vois la vie qu'on avait, je me dis, mon père travaillait quand même tous les jours à Beaubourg. Il peignait des portraits de touristes. Et s'il n'y avait pas de touristes, il ne ramenait pas d'argent. Et s'il pleuvait, qu'il vente, il disait, j'ai vraiment mal aux mains. Et je me rappelle de ça, moi. Donc ça m'a un peu dégoûtée du dessin, quand même.
Banana Girl, donc avec vous, Kélam, c'est donc une autobiographie dessinée qui navigue, comme ça, entre Paris, avec ses us et coutumes que vous découvrez, et Hong Kong, votre terre natale.
Mon père est le 7e enfant de sa famille. Il a 8 frères et sœurs, inconcevable pour moi qui suis enfant unique. D'ailleurs, Ils ne s'appellent pas par leur prénom, mais par leur numéro de naissance. Là, j'ai dessiné un cochon étendu au sol avec 5 petits cochons qui sont en train de se nourrir. 1, 5, 6, 7, 8. Dans les années 1980, ma tante numéro 5, ma tante numéro 6 et mon oncle numéro 8 avaient migré à Hong Kong. Ils avaient choisi cette ville pour son ouverture économique. Mon père les a accompagnés.
Est-ce que pour vous, Kaylam, cette question d'appellation, qui en plus est très sophistiquée, hein, parce que plus loin, vous racontez que selon la place dans l'arbre généalogique, la sœur, la plus jeune sœur du frère aîné, etc., a un nom particulier. Enfin, c'est...
Moi, je ne m'y retrouve pas. Il ne faut pas me demander. Déjà en français, j'ai du mal avec cousin, neveu, nièce, belle-fille, etc. Parce que finalement, mon père, lui, il a vécu dans une énorme fratrie avec beaucoup de frères et sœurs autour. Mais moi, pas du tout.
Oui, c'est ça. J'allais vous demander si cette question d'appellation dans l'arbre généalogique, c'était une partie de votre identité ou c'était déjà du romanesque pour vous.
Comment ça ?
Ça fait partie de l'identité familiale et donc de votre identité, cette façon de nommer tante numéro 8, tante numéro 6, etc.
Bah, pas vraiment, puisque moi, je ne les nommais pas, finalement.
Ah oui, vous ne les nommiez pas.
Bah, c'est-à-dire que j'avais très peu de rapport avec eux. Mmh. Moi, j'étais assez coupée de la famille. C'est plutôt quand je retournais pendant les vacances que là, ma mère, elle me chuchotait comme ça. Elle me disait, bon, bah, elle, c'est la tante numéro 6 et tu vas prononcer ça d'une certaine façon. Même mon grand-père ou ma grand-mère, elle me disait, bon, bah, lui, tu vas l'appeler comme ça.
Mm-hmm. Voilà. Donc, en fait, il y a un double regard. Hein. Il y a le regard, effectivement, que vous sentez des Français sur votre culture, mais il y a aussi votre propre regard à vous, Kaylam, sur cette identité.
Mon identité, elle est multiple. Et c'est difficile pour moi de dire si je me sens plus française, plus chinoise, plus hongkongaise aussi. Ça change suivant les circonstances, l'actualité. Des fois, j'ai pris plus position des Français, des fois plus position des Chinois, des fois plus des Hongkongais. Et je m'autorise ça maintenant.
Un jour, il y a cette réflexion de votre mère, hein, toujours dans Banana Girl. Elle vous dit, mais tu sais ma chérie, tu as des yeux vraiment très bridés. Ils sont trop petits. On m'a fait une opération pour créer une double paupière. On t'opérera la prochaine fois qu'on retourne à Hong Kong. Est-ce que tu veux ?
Elle est horrible cette scène parce que ma mère me dit ça avec une telle bienveillance. Sauf que moi, j'ai jamais compris. Je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on me demande de changer mes yeux ? Je suis quand même sa fille, elle devrait m'aimer telle que je suis. Et pourtant, il y a ce regard-là, je trouve, des Chinois vis-à-vis de l'Occident. Ils sont en admiration devant les Français. Et il faut être blonde, aux yeux bleus, avoir des grands yeux, très grands yeux. Ça fait partie des critères esthétiques.
Et vous ne lâchez pas ?
Je ne lâche pas, je ne sais pas si c'est parce qu'au fond... Comme moi, finalement, je suis arrivée en France, je n'avais plus rien de mes origines. Je me sentais, déracinée. Donc, je me raccroche à tout ce que je peux et même mon prénom. Enfin, mes cousines, elles ont changé leur prénom. Elles ont pris des prénoms anglais. Cheryl, Greeny. Et moi, je ne voulais pas. Moi, je trouvais que Kay, c'était Kay. Et puis, voilà, il fallait que ça reste comme ça. Et c'est... Oui, peut-être parce que j'y tiens.
Kay qui veut dire ?
Kay qui veut dire Jeanne ou Pierre précieuse. Et mon nom de famille, Lam, qui veut dire forêt.
Alors à propos de cette question des yeux bridés, ça nous emmène à une interrogation qui est la vôtre d'ailleurs en tant qu'illustratrice. Les dessinateurs asiatiques et non-asiatiques dessinent d'une certaine manière les yeux bridés.
Eh bien, si vous regardez les mangas par exemple, ouais. Ben, on ne trouve pas tellement des yeux bridés. Hein. Sailor Moon avait des yeux énormes et moi je ne comprenais pas du tout pourquoi tous les mangas japonais ont dessiné... Des yeux comme ça. Après, j'ai su que c'était lié à Bambi, qu'il fallait faire des énormes yeux. Mais je trouve ça très bizarre.
Et vous, comment vous les dessinez, les yeux bridés ?
Maintenant, je les dessine en amande. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de savoir comment on dessine des yeux bridés. Et j'ai eu un moment, après Banana Girl, à me dire, il faut que je repasse sur des yeux non en amande pour dessiner des Français. Et ça m'a fait l'effet inverse. Il fallait réapprendre à dessiner des yeux.
Alors cette autobiographie, c'est aussi un peu une enquête sur le passé de vos parents qui ont donc vécu la fameuse révolution culturelle en Chine. Qu'est-ce que vous avez appris alors dans cette enquête ?
C'est très difficile pour eux de parler de leur passé parce qu'ils voient le passé comme quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et je suis un peu comme ça d'ailleurs. Par exemple, j'étais très très nulle en histoire et pour moi c'était hyper abstrait, Louis XIV et les fables de La Fontaine, pour moi c'était la même chose. Et en fait, quand je suis arrivée à l'école, le passé, c'était quelque chose que j'avais du mal à appréhender, c'était pas palpable pour moi.
Alors il y a aussi la dimension politique, ça c'est un tabou suprême, on va dire, en Chine.
En Chine, et puis mes parents. Quand il se passe des révolutions à Hong Kong et que j'essaye un peu d'aborder le sujet avec eux, c'est « Ah non, t'as pas le droit de parler de ça. Tu es française maintenant, tu ne sais pas comment ça se passe sur le territoire, tu n'as pas le droit d'en parler. » Et c'est très difficile, on ne s'entend pas vraiment sur l'actualité.
Donc vous ne savez pas l'opinion de vos parents sur Macron ou Xi Jinping ?
Ils n'ont pas d'opinion. C'est-à-dire qu'on leur a appris à ne pas avoir d'opinion politique. Ils sont très formatés pour ça. Et moi, c'est mon côté française où je suis là, mais non, là, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Et donc, eux, ils sont terrorisés de me voir comme ça, aussi changer.
Alors, vous ne m'en voudrez pas, quelle âme, mais en lisant votre Banana Girl, j'ai forcément pensé à Persepolis.
Nous sommes en train de vivre un moment historique.
Et c'est reparti.
Ah, bah,
au lit, tout de suite.
Marge, ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète.
Mais mon Dieu.
Tous ensemble, de marcher vers la démocratie.
Nous aurons enfin une société faite de justice et de liberté.
Le peuple a voté démocratiquement à 99,99% pour la République islamique.
Le voile est synonyme de liberté.
Un extrait en sol majeur de Persepolis, donc ce roman graphique adapté au cinéma par Marjane Satrapi. Je rappelle l'histoire de la petite Marjane qui a 8 ans, qui songe à l'avenir, qui se rêve un peu en prophète de la galaxie et qui suit avec ses parents qui sont eux très cultivés la révolution islamique. Est-ce que forcément ça a été une influence Persepolis pour vous, Kélam ?
Oh que oui. Oh que oui, et je vais vous dire pourquoi, parce que quand j'étais petite, à chaque fois que j'essayais de regarder une bande dessinée, je voyais des Asiatiques. Dans Tintin, par exemple, on avait Chang, ou dans la BD Cédric, il y avait Chen. Et c'était tous des personnages assez, comment dire, caricaturaux, quoi. Mm-hmm. Et quand Marjane, elle a sorti Persepolis, ça m'a fait un bien fou. Je me suis dit, mais en fait, des gens de double culture existent et peuvent raconter leur histoire. Et surtout, une femme, parce que en tant que femme en bande dessinée, je me suis rendu compte que le monde était quand même très masculin. Mm-hmm.
Alors ce qui est drôle dans votre parcours, c'est que vous étiez, comme vous le disiez, ingénieur en urbanisme. Et puis vous voilà, apparemment vous avez lâché ça pour devenir auteur de romans graphiques. C'est-à-dire que vous avez fait votre propre révolution culturelle. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je suis sortie de mes études, je m'en rappelle très bien, c'était en 2009, je me suis demandé, ok, j'ai fait tout ce que mes parents m'ont demandé, j'ai eu mon diplôme, bac plus 5... parce qu'eux n'ont pas pu étudier à cause de la révolution culturelle, donc l'école c'était tellement important à la maison. Et une fois que je suis sortie, j'ai fait « mais je ne sais pas du tout quoi faire de ma vie, est-ce que je dois vivre en France, est-ce que je dois aller vivre en Chine ?» Je ne savais pas. Mm-hmm. Et je suis allée vivre en Chine pendant 6 mois, une expérience...
Alors en Chine
À Shanghai, donc une ville quand même pas très chinoise finalement, quand on y pense, qui est très expat. Et j'y suis allée, j'ai vécu l'expérience là-bas et je me suis dit, ok, là je suis en train de vivre des choses extraordinaires et il n'y a aucun livre qui parle de ça, de cette double culture. Quand je suis en France, j'essaye de ressembler aux Français. Quand je suis en Chine, j'essaye de ressembler aux Chinois. Et je me rends compte que je suis ni l'un ni l'autre ou les deux. Mmh. Et j'avais besoin de réfléchir à ça, donc il fallait écrire Banana Girl.
Pourquoi vous êtes allée à Shanghai plutôt qu'à Hong Kong ?
C'était une opportunité professionnelle, tout simplement.
Pour le plaisir de vous recevoir à bord de cet Airbus 330.
D comme double jeu.
Avec cette question, Kélam, comment est-ce que vous vous sentez dans un aéroport ?
C'est très drôle parce que j'ai une phobie, vous ne pouvez pas vous imaginer, des avions. Je déteste prendre un avion, je me sens très mal à l'aise durant le vol. Vraiment, c'est physique. Mmh. Et pourtant, j'adore les aéroports parce qu'on croise des gens improbables. J'ai l'impression que c'est un non-lieu ou un lieu, je ne sais pas, qui permet ça d'avoir tout le monde. et je me sens hyper bien dans ces espaces-là. C'est étrange.
Car la petite fille née à Hong Kong, trempée dès l'âge de 6 ans dans le fleuve français, entre deux parents chinois, sans famille, cette petite fille dit avoir eu l'impression de n'avoir ni passé ni mémoire. Ça s'est peut-être accru avec une autre dimension, celle du déménagement.
Tous les ans, on déménageait d'une chambre de bonne. On essayait de se trouver des logements un peu plus spacieux à chaque fois. Donc on se retrouvait avec des familles immigrées aussi dans des appartements où on partageait les pièces. Et petit à petit, on est sorti de Paris. Et c'est là qu'on s'est retrouvés en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, à Bagnolet. J'ai changé beaucoup d'espace. Donc c'est difficile de construire des amitiés sur le long terme. On se refait des nouveaux amis à chaque fois. On perd un peu notre passé. On est obligé de vivre le présent.
La difficulté de s'ancrer hein, aussi.
Exactement. Oui.
Est-ce que vous pourriez nous décrire pour en sol majeur, puisque vous avez éventuellement la planche des saveurs du béton qui vient de sortir, votre deuxième roman graphique, la planche page 48.
Il faut savoir que j'étais très attachée à la petite fille que j'ai créée dans Banana Girl et je voulais pas la lâcher. Et en même temps, je sentais que dans Les Saveurs du Béton, il fallait créer une adolescente. Donc j'ai un peu triché. J'ai fait dialoguer le moi adulte et le moi enfant. T'aimes plus les centres commerciaux ni le Domac ? Ben non, j'essaie d'éviter la surconsommation maintenant. C'est trop polluant. Là, sur quoi ? Je pensais que j'aimerais ça pour toujours, jusqu'à ma mort, comme les dessins animés. Mais attends, t'aimes les dessins animés au moins ? Je regarde moins qu'avant. Et le journal de Mickey, le Spirou, et le Picsou ? Non, ça, je ne lis plus. Mais alors, t'as gardé quoi de moi ? Le dessin. Bon, j'ai quitté mon job d'ingénieur pour m'y mettre. Quoi ? Tu es devenue dessinatrice alors que tu étais ingénieure ?
Voilà, c'est un dialogue entre la petite et la grande Kaylam. Vous dites que vous avez triché en adoptant ce procédé d'écriture, mais ça dit quelque chose de votre personnalité, ce double jeu.
Je dis tricher parce que j'ai toujours l'impression que je triche quand je dessine, parce que j'utilise les capacités que j'ai en dessin, qui sont les miennes. Et donc là, il fallait que je fasse dialoguer les moi intérieurs. Et c'est un décalage vraiment entre la petite fille qui est l'issue de l'immigration, qui vit en banlieue, qui a des rêves énormes et qui se retrouve face à l'adulte qui dit « Ah ben non, mais moi maintenant ça m'intéresse plus de consommer, je ne veux plus le McDo ». Et c'est ça qui est intéressant, je trouve.
Les Saveurs du Béton, où vous déballez petit à petit les couacs de votre vie en banlieue et où vous mettez en scène aussi vos blocages d'écriture. Et du coup, vous en faites quelque chose de ce blocage. La grande Kay, donc, se plaint à un moment donné à sa mère en lui disant qu'elle ne lui parle pas, par exemple, assez de son travail. Avec cet argument, c'est la grande Kay qui parle, elle dit « Ce livre, c'est un livre sur une famille d'immigrés. Moi, j'en ai marre de cette France idéalisée. » Est-ce que ça, c'était pas un peu l'un des mobiles de ce deuxième roman graphique ?
Complètement. C'est que quand on regarde des films comme Amélie Poulain, on a une certaine image de Paris, de la France. Et ce qui est intéressant, c'est quand les Japonais arrivent à Paris, ils sont hyper déçus, ils ont un choc parce qu'ils se retrouvent face à un non-Amélie Poulain. Et moi, j'avais envie de raconter ça, parce que quand j'étais petite, je me rappelle très très bien les scènes qui m'ont beaucoup marquée, c'est qu'on nous parlait de beaucoup d'intégration et qu'il fallait faire des efforts. Et moi, j'étais vraiment une enfant modèle et sage et je faisais tout ce qu'il fallait. J'essayais d'être brillante à l'école. Et pourtant, quand j'allais faire mes papiers, bah, y avait quand même de la violence. J'ai même limite construit Les Saveurs du Béton pour raconter cette scène à la préfecture de police.
Oui, ce sont des souvenirs que vous qualifiez de déshumanisés. Donc, dans cette préfecture de Bobigny, les connaisseurs reconnaîtront. L'acte 3, parce que vous revenez évidemment plusieurs fois avec votre mère pour renouveler votre carte de séjour, l'acte 3 de cette visite à la préfecture, sans le chien de garde. J'ai envie de dire, plus que la devise « liberté, égalité, fraternité ». Comment vous vous représentez, vous et votre mère, dans cette préfecture de Bobigny ?
C'était une scène qui m'a tellement traumatisée qu'il était impensable pour moi de les représenter en tant qu'humain. Et il était plus facile pour moi de les basculer en bétail. Donc ma mère et moi, et comme tous les immigrés qui venaient refaire leur papier, on s'est transformés en moutons. Et ce que j'appelle le videur de l'entrée, comme ça, de la préfecture, il s'est transformé en molosse. Et c'est vraiment ce que je ressentais, moi, en tant qu'enfant. C'est que là, on n'était plus des humains. Et on n'était pas traités en tant qu'humains.
Donc il y a cette dimension. Et puis, il y a l'autre dimension de cette vie précaire, dont vous dites qu'elle vous a valu quelques troubles du comportement à l'âge adulte.
Ouais, et ça, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte quand on est petit. Mais oui, le manque, moi, je me rappelle que j'ai énormément de mal à jeter des objets. Je ne comprenais pas pourquoi je tenais absolument à tout garder comme ça. C'est que petite, on avait tellement peu de choses que du coup, maintenant, quand j'ai un objet, je veux le garder auprès de moi toujours. Oui, j'ai eu des tics de comportement. Quand j'allais prendre un café, je culpabilisais parce que je me disais « mais là, je suis en train de dépenser de l'argent pour me faire plaisir ». Alors que mes parents, eux, je sais pas, ma mère, elle est en train de faire du ménage, je peux pas me le permettre. Et c'était difficile pour moi d'être toujours en décalage comme ça entre plusieurs classes sociales.
Et vous le dessinez ça, Kaylam. Vous vous dessinez à un moment donné avec un éléphant carrément sur le dos qui vous écrase, adolescente. Hein. Cet éléphant, il représente quoi ?
Le poids des responsabilités. Alors, vous savez,
de la culpabilité.
De la culpabilité aussi, les deux. Et je me suis reconnue dans une émission à un moment donné où c'était une enfant sourd-muet qui aidait ses parents. Et moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la maison, j'aidais mes parents à faire leurs papiers. J'étais un aidant, finalement, on peut dire ça comme ça.
Vous étiez leurs parents.
C'est ça. Les rôles s'inversent. Quand on est dans une famille immigrée, on ne prend plus la place de l'enfant, on devient adulte. Et ça change tous les rapports qu'on peut avoir dans une famille.
Et puis, vous avez découvert un mot apparemment magique chez une psychanalyste. C'est le mot métissage.
Métissage, et ça fait du bien. Quand on me dit métisse, ça veut dire que je n'ai pas à choisir entre être française à 100%, je sais pas, aimer le camembert, l'andouillette, et être chinoise. Et moi, j'aime la France et la Chine très fort, et comme des fois, je peux les détester, quoi.
Donc, vous avez trouvé votre place dans la fameuse pyramide de Maslow.
La pyramide de Maslow, c'est... Les premiers besoins que nous avons, c'est des besoins, disons, de survie. Et petit à petit, on s'émancipe et à la fin, on a besoin de reconnaissance. Et ce qui était drôle, c'est qu'à la maison, mon père était tout en haut de cette pyramide de Maslow qui cherchait à être un grand artiste peintre.
À s'épanouir.
À s'épanouir. Alors que ma mère et moi, on était là, on avait besoin de sécurité. On avait besoin d'avoir un logement, d'avoir des sous, de pouvoir manger. Mais ça, mon père ne s'en préoccupait pas du tout.
Vous avez bien rétabli la balance, hein, quand même. Et si on transgressait à nouveau la petite ligne rouge du code chinois, c'est-à-dire si on s'autorisait à parler politique légèrement, et parler par exemple de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, c'était en 1997.
L'histoire en marche et les Hongkongais qui la regardent passer. Ce matin, dès l'aube, l'armée populaire de libération reprend possession de la colonie britannique. À l'appel du comité de quartier, les riverains
Britain is part of Hong Kong's history. And Hong Kong is part of Britain's history.
Laver l'affront infligé par les Britanniques lors des guerres de
l'Opéra. We are also part of each other's future.
19e siècle.
Après 150 ans de contrôle colonial sur Hong Kong, je voulais voir les soldats arriver, leur souhaiter la bienvenue et admirer la puissance de leur armée.
Que penser de ce feu d'artifice qui incarne la rétrocession de Hong Kong à la Chine, Kaylam ?
C'était drôle parce que mes parents, ils étaient hyper contents que Hong Kong redevienne chinois. Alors que moi, là, aujourd'hui, je suis vachement mitigée. Et je me dis, bah, je ne sais pas si je suis si contente que ça.
Et vous êtes mitigée, pourquoi ?
Bah, parce que je vois que les lois de liberté sont bafouées. Je vois que les jeunes, je vois que c'est difficile pour eux, qu'ils ont envie de migrer, de changer de pays. Et en tant que dessinatrice, illustratrice, autrice... Je me dis, mais moi, comment serait mon métier si je ne pouvais pas m'exprimer, si j'avais pas le droit à la parole ?
On est en train de s'exprimer au moment où le Salon du Livre de Hong Kong est en train de s'ouvrir, avec force censure. Hein, certains auteurs sont censurés. Et puis, évidemment, il y a cette proposition de loi qui permettrait l'extradition de ressortissants locaux vers la Chine continentale. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, vous ? Dans la famille, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ?
Bah dans la famille, on ne dit pas, surtout. Moi, ce qui m'inquiète personnellement, c'est ce que je peux dire, par exemple aujourd'hui en antenne. Est-ce que ça va affecter mes voyages en Chine pour voir ma famille ?
Donc vous êtes déjà dans une forme d'autocensure ?
Je suis déjà dans une forme d'autocensure. Et en même temps, je ne vis plus là-bas. C'est-à-dire que quel droit j'ai à avoir une opinion ?
Légitimité, toujours.
Voilà, la question de la légitimité. Et pareil, des fois, je me pose aussi la question en France, quand il s'agit des prises de décision en politique, je me demande tout le temps, est-ce que j'ai le droit ou pas d'avoir mon opinion là-dessus ? C'est pas évident pour moi.
Mais vous vivez ici.
Ouais, mais on va me dire, bah ouais, mais toi, t'es chinoise. Tu ne peux pas comprendre.
Oui, mais alors là, donc tout le cheminement intérieur, il s'effondre.
Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur des situations sur le vif, quoi. Ça, je ne sais pas faire. J'ai besoin d'avoir du temps pour peser les mots, le pour et le contre avant d'écrire.
Résultat, vous avez, vous diriez, toujours un pied ici et un bout de votre cœur là-bas.
Non, mon cœur est en France aussi. Mon cœur est à Hong Kong aussi. J'aimerais avoir peut-être plus de pieds à Hong Kong. J'aimerais pouvoir y aller facilement. Mais c'est un endroit que je trouve fascinant, Hong Kong. Ça ressemble à New York. Et en même temps, vous avez des montagnes, la jungle, les îles. Je pense qu'il y a peu d'endroits qui regroupent tout ça. Paris, on n'a pas ça. On n'a pas les plages et les montagnes, quoi.
À propos de cœur, est-ce que vous êtes prêt pour un j'aime, j'aime pas ?
Allons-y.
My name is Bernie Krause. And for nearly 50 years, I've been recording wild soundscapes.
Il s'appelle Bernie Krause. Et moi, Camille, cela fait 40 ans qu'il enregistre les sons de la planète. Et aujourd'hui, je lui prête ma voix.
Welcome to the Great Animal Orchestra.
Ce que vous entendez maintenant est un collage, un condensé de ce qu'on entend vraiment dans l'océan. Car même si dans l'eau, les sons voyagent plus loin et plus vite qu'à la surface, les animaux qui les émettent sont plus éloignés les uns des autres. C'est en fait une multitude de solistes qui composent la biophonie marine, plutôt qu'un grand orchestre. Mais quelle beauté à écouter.
J'aime, j'aime pas.
Les animaux façon grand orchestre de Bernie Krause.
J'aime parce que quand je suis allée à la Fondation Cartier et que j'ai découvert ça, ça a été une révélation. Et je trouvais ça tellement intelligent d'avoir enregistré la biodiversité à travers le son et de se rendre compte de son extinction.
Vous avez repéré la signature acoustique de la fourmi ou de l'anémone de mer ?
J'en suis incapable, ouais. Mais lui sait le faire sûrement.
La calligraphie.
J'aime, mais je ne le pratique pas tant que ça.
Oui ?
Ouais, je le pratiquais plutôt petite. C'était plutôt le moment que j'aimais avec mon père, je crois,
ouais.
Que j'aimais.
Vous vous étiez rendu compte petite que vous écriviez des caractères simplifiés.
Oui.
C'est ce que vous racontez, ça veut dire quoi ?
Le mandarin, il peut être écrit de manière traditionnelle ou simplifiée. Et un jour, on m'a fait une remarque. C'était quand j'étais allée à Hong Kong et qu'on m'a dit « mais t'as écrit le mandarin de manière simplifiée, mais tu te rends compte qu'en fait, il faut l'écrire de manière traditionnelle parce que c'est une révolution silencieuse, c'est pour prouver qu'on est contre la révolution culturelle. » Et ça, c'est les Hongkongais qui y tenaient, quoi. C'était un geste politique d'écrire avec des caractères traditionnels.
Caractère simplifié, c'est être dans le communisme, en fait.
C'est ça, c'est accepter même le fuseau horaire. Hein, sur la Chine, sur le territoire entier, il y a un seul fuseau horaire et ça, c'est le communisme. Donc, je sais que les Hongkongais sont comme ça, très attachés à l'écriture, ce que je ne savais pas parce que mes parents ne me l'ont jamais appris.
Les prix Nobel de littérature. Vous me faites oui comme ça. Alors, vous savez, il y en a un qui ne doit pas vous laisser indifférente, évidemment, Kaylam. C'est le fameux Gao Xinjiang.
Je dois dire, depuis mon enfance, je m'intéresse à tout. Je m'amusais, un enfant, je m'amusais tout. Même, j'ai joué au violon. Voilà, je suis monté sur la scène avec ma mère. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé à écrire ma première fiction. C'était à l'âge de 10 ans. Voilà, un enfant s'amuse à tout genre. C'est pourquoi ça, la littérature et l'art, pour moi, c'est une nécessité. Voilà. Et c'est pas un métier. Il n'y a pas cette distinction, je pratique tel métier, peintre ou bien écrivain. Mais cette distinction, c'est la société contemporaine, voilà, ça devient un métier, une profession. C'est trop marqué, la création artistique. Mais je pense, en fait, au fond des êtres humains, si on a une impulsion de s'exprimer, alors on devrait, par multiples expressions, on trouve toujours une expression, voilà. Et après, c'est l'esthétique vient après.
Sur RFI, Gao Xinjiang, au micro de France Culture, donc né en 1940 en Chine et auteur notamment de La Montagne de l'âme, hein, roman qui place l'homme au centre de son introspection, enfin vite dit, et donc qui a reçu en 2000 le Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Alors l'intellectuel que vous êtes, parce qu'on vous a gratifié de ce qualificatif petite, hein, Kaylam, quel sentiment par rapport à ce prix Nobel ?
Alors, Gao côtoyait mon père beaucoup. Il habitait à Bagnolet-à-Lanoux, donc c'était notre voisin.
Dans votre cité ?
Dans ma cité, où je parle dans Les Saveurs du béton. Et c'est drôle parce que le jour où il a eu son prix, il y avait de l'espoir. Moi, c'est ça que j'ai vu. Il y avait de l'espoir chez les habitants de Bagnolet. Il y avait de l'espoir chez mon père, dans les amis de mon père qui étaient artistes, qui rêvaient de percer en France. Et moi, c'est ça que j'ai vu. C'est que je me suis dit, waouh, en fait, même si on vient d'une cité, même si on est immigré, on peut quand même être reconnu pour notre travail. Et c'est ce qu'il dit, c'est pas son travail, c'est sa personnalité finalement. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir.
Romancier, il faut le dire, quand même ignoré par Pékin, Xinjiang défendant, on va dire, la liberté absolue de l'artiste. Hein, donc ça, le régime communiste n'aime pas trop. Et ça fait penser à un autre artiste majeur, Wei Wei, qui est lui l'incarnation de cette liberté. C'est un artiste évidemment dans le collimateur aussi du régime. Je me souviens par exemple de sa caméra de marbre qui symbolisait sa résidence surveillée. Mais à vous lire, j'ai eu l'impression qu'il ne faisait pas l'unanimité dans la famille.
Ah, mais pas du tout. Ah, si je parle de Ai Weiwei avec mon père, il vous dira que non, c'est un imposteur, que ce qu'il fait, c'est politique. Et pour mon père, l'art, ça ne doit absolument pas être politique. Alors que moi, au contraire, je trouve que Ai Weiwei, il a mis le doigt sur des choses essentiel. Moi, j'avais vu des reportages où il avait, lors d'un séisme dans le Sichuan, recensé tous les morts. Et ça, ça plaisait pas, parce qu'il disait, mais là, finalement, est-ce que je suis en train de faire un travail d'artiste ou est-ce que je suis en train de faire un travail de citoyen ?
Est-ce que vous vous posez vous-même la question, alors, maintenant que vous signez des romans graphiques ?
Je ne me pose pas la question dans le sens où c'est les autres qui parlent de mon travail et qui me mettent des titres comme ça à ce que je fais. Moi, je fais juste, j'essaye de me dire qu'est-ce que j'ai envie de dire. Mais
jusqu'où ? Parce qu'on parlait d'autocensure tout à l'heure.
Oui, c'est vrai. Jusqu'où ? Je pense qu'il faut aussi se respecter, quoi. C'est-à-dire que moi, dans le fond, je ne suis pas une militante. J'aime pas tellement le conflit. Et pour moi, être militant, c'est quelqu'un qui a des idées très, très fortes et dont on ne peut pas changer, peut-être. Alors que moi, je suis plutôt, un jour, je vais penser à ça, et puis demain, si on va me contre-argumenter, je peux changer d'avis. Alors peut-être, je suis militante écolo, parce que je pense que, effectivement, la planète, il faut la protéger, quoi.
Jamel Debbouze.
Oui, je l'adore, Jamel, parce que quand j'étais petite, je ne voyais pas du tout de jeunes de banlieue à la télé, et Jamel, quand il est arrivé, pareil, ça m'a fait un effet de « waouh ». Ok, on peut venir blaguer. Et en plus, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a une espèce de générosité de dire bah, « moi, je viens de Trappes et en même temps, je vais aider les jeunes défavorisés à monter sur scène ». Et c'est ça que j'aimais chez lui.
Mais vous aimez aussi Awkwafina ?
Oui, alors, est-ce que vous avez vu le film de Farwell, L'Adieu ?
J'ai regardé des extraits.
Ouais, et ce film,
donc
moi...
Donc c'est une chanteuse de hip-hop, actrice ?
Actrice qui a tourné dans le film de Farwell. C'est une histoire d'une famille dont la grand-mère est malade et dont on ne sait pas si on doit lui dire. Et là, l'actrice, donc Awkwafina, joue un rôle. Elle est comme ça dans des questionnements culturels, de savoir mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas lui dire alors que moi, c'est hyper important pour moi.
Elle est sino-américaine ?
Sino-américaine, oui, tout à fait, avec une mère, il me semble, coréenne, sud-coréenne. Et c'est la première fois, donc c'est quand même, je précise que c'était en 2020, donc ça fait pas longtemps, que je me suis vue au cinéma.
La question de pouvoir s'identifier, évidemment, est cruciale pour se construire. Et en même temps, s'identifier à quoi ? Dans le cas d'une banana girl, jaune à l'extérieur, blanche à l'intérieur.
Eh bien, c'est tout le problème, c'est qu'on manque de représentation. Moi, je ne sais pas qui, vraiment, j'ai envie de ressembler. Il y a plein de gens que j'admire, je veux dire, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, d'une double culture, dans leurs travaux, dans le cinéma, la littérature, il y en a très peu, ça commence là.
순간의 잘못된 선택으로 스스로 불행 속에 빠져버리고 말았습니다.
사랑해요.
세상의 시선이 두려워 자꾸만 빈 집으로 숨어버리고 싶었습니다.
마녀다 보니
지금 남은 것은 후회와 빈 껍데기뿐입니다.
저희 가족은 잠시 제주도 여행을 떠납니다. 용건이 있으시면 내일 다시 걸어주세요.
황량하고 외로운 빈집에서 날 이끌어줄 그 누군가를 간절히 그리워합니다.
도대체 뭐가 부족해? 뭐가 불만이야? 너 때문에 미치겠어. 정말 안 받을 거야?
Quelle est cette jolie musique dans nos oreilles en sol majeur, Kay?
C'est à l'issue du film Binjip, Les Locataires. C'est un film que j'ai beaucoup regardé, sud-coréen. Il faut savoir que j'ai une passion pour le cinéma et surtout le cinéma asiatique. Et ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées en silence. Il y a peu de mots. Et c'est avec beaucoup de choses qu'on arrive à dire comme ça... sans rien dire finalement.
Le rapport au vide, hein,
le rapport au vide
se dit différemment en Orient et en Occident. Alors comment vous vous situez-vous ?
C'est-à-dire que moi, je n'ai pas peur du vide. Ou... Par exemple, dans les films, quand je regarde des films asiatiques, il y a énormément de moments de contemplation, de poésie, de silence. Et moi, ça ne m'effraie pas. Alors que dans le cinéma français ou américain, c'est bam, bam, ça va très vite. Quoi. Mm-hmm. Et je trouve ça intéressant de regarder des films asiatiques pour avoir une autre perception de la temporalité, du rythme, que les choses ne se déroulent pas à la même vitesse.
Ce rapport au vide, est-ce qu'il serait nourri par le bouddhisme, par exemple ?
Alors, moi, je n'ai pas de religion, donc je peux pas vous dire. Après, je pense que ce qui est en Chine, entre la philosophie et la religion, c'est lié, quoi. Je pense que mes parents, ils m'ont donné plein de clés de sagesse, de philosophie petite, en me lisant des livres, sans parler de religion. Mais c'est des philosophies de vie.
Vous avez vu, on a réussi à ne pas parler de cuisine dans cet ensemble majeur, alors que c'est quand même une manière de parler d'amour, hein, que ce soit, on va dire, en Chine, mais en Asie d'une manière générale. Votre plat préféré étant les liserons d'eau à l'ail.
Aïe, aïe, aïe. En vrai, j'ai pas de plat préféré, mais oui, celui-là me ramène soudainement à l'enfance. Ce qui est drôle en Chine, c'est qu'on mange beaucoup de végétal, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand on va dans le marché, il y a plein d'espèces d'épinards, on va dire ça comme ça. Alors qu'en France, on ne trouve pas tellement la salade bouillie, on n'aime pas ça, quoi. Et donc, c'est très surprenant, alors que moi, ça me ramène tout de suite à l'enfance.
Une dernière question en sol majeur, Kalam. Est-ce qu'on peut dire que finalement, vous ressemblez... au Pékin moyen.
Non.
C'est une blague que vous n'aimez pas et qui est bien racontée d'ailleurs dans Banana Girl et les saveurs du béton, donc paru chez Steinkiss. Merci Kelam.
Merci à
Qu'est-ce
vous.
Qu'on fait pour se quitter en sol majeur? Est-ce qu'on écoute plutôt, attention, Priscilla Chan ou plutôt Negmaron?
Allez, Negmaron.
Pourquoi diable?
Pourquoi Negmaron? Mm-hmm. Parce que j'ai eu cette chanson dans ma tête pendant tout le processus d'écriture des saveurs du béton.
Le bilan.
Moi, j'ai un peu le sentiment de faire un bilan de ma vie, de voir un petit peu mon passé, de remettre en question mes rêves, mes espérances.
Quand je vois que j'ai fait mes 30 ans aujourd'hui alors que j'avais 18 ans hier, les jours passent comme les voitures. Ouais, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Quel est le bilan de ma vie, hein?
Hey, c'est fou ce que le temps passe vite.
La vie, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui.
Je repense à notre enfance, pas toujours aisée, sans trop dramatiser. Ce n'était pas toujours rose, c'est peut-être ce qui nous a motivés.
L'esprit était Janek, maman, petit vagabond, ma tête grainée. On préférait sécher les cours et rester svané au quartier.
L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles à l'époque. Dans les halls, les gangs, Drex meurent parfois sous belle.
Ice Boy, B-Boy représentait Gare Charcel.
Je me rappelle,
y avait des bandes et des gangs, y avait même des gangbangs. C'est vrai qu'on bandait à peine, mais on voulait des jeunes.
Nos ambitions, objectifs, devenir quelqu'un, un point commun, celui de réussir par tous les moyens.
Maintenant je comprends Benji que quand on était gamin, on avait le même itinéraire mais pas le même destin.
Le temps passait, 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 beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé?
On fait le bilan,
calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passait, 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 beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé?
On fait le bilan,
calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans.
Benji, tu te souviens ce qui nous a donné l'envie d'écrire? L'oreille scotchée sur nos voix, d'écouter
hey,
MC qui déchire.
Déjà nos premières rimes naissent, les jeux de mots, puis les jeux de scène ne cessent de s'enchaîner. Des MJC au son de système.
Et puis en un éclair, nous voici sous les projecteurs. On s'adapte et on domine, professionnel ou amateur.
Tu le sais, c'est la monnaie
qui dirige le monde.
C'est la monnaie
qui dirige la terre.
Plus au sommet des hits de là, tout s'est passé si vite.
C'est boule de neige, premier album, studio, promo, clip, vidéo. Les necs marrons s'exportent en live et prennent tous les publics.
Dans les 4 coins de la France, on est parti foutre le dawa. Comme dans les avant-premières de Steel Pulse et Fugees, arrive. On a tout déchiré le 22 mai à l'Olympia pour baptiser le concert mythique avec tout le secteur A.
La musique m'a mis au fichal, qu'est-ce que j'aurais fait sans elle? J'ai esquivé les plans couchal, aujourd'hui je kiffe grâce à elle.
Le temps passait, 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 beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé?
On fait le bilan,
calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passait, 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 beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé?
On fait le bilan,
calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans.
Le temps passe tellement vite,
t'as vu comment on a changé.
Kija t'a pris du poids,
Benji toi t'as encore poussé.
Regarde ça se passe, tu brilles des pieds à la tête. Blanche basket de l'or au poignet jusqu'aux lunettes quartier.
Pas plus que toi les gros, respect au Congo. Toutes les rats me parlent de toi et de Bissot, Bissot.
Merci, mais dis-leur que je suis plus le même. Que depuis j'ai un fils et aussi une femme qui m'aime.
C'est ça, faut construire une famille, assurer sa descendance. Même si ce n'est pas encore mon heure, t'inquiète, chaque jour j'y pense.
L'horloge tourne, les jours défilent, les années passent, nos vies changent. On évolue, chacun son destin, mais surtout chacun sa chance.
Le temps passait, 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 beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé?
On fait le bilan,
calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans.
Le temps passait, 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 beaucoup de choses ont changé.
Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé?
On fait le bilan,
calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans.
C'est bon là où ça passe. En sol majeur, émission à retrouver en podcast. Et en un clic, ça vous fait un bel abonnement sur Pure Radio. Et bien sûr, à retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Et derrière le feu de cheminée, comme autrefois, chaque samedi, chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on chauffe les micros pour se retrouver demain autour de Salima Tenfish. À demain.